Depuis quelques années, le Théâtre du Rideau Vert s'engage à rendre ses spectacles accessibles à tous les publics. Le programme d'accessibilité universelle est en constante évolution. À preuve, l'équipe d'À toi pour toujours, ta Marie-Lou, vivra une grande première pour sa représentation interprétée en langue des signes du Québec. Ça va se passer le 27 février prochain. Et pour en parler, j'accueille avec grand plaisir Erika Malo, qui est coordonnatrice du développement artistique. Rebonjour Erika, parce que vous venez à l'occasion dans nos studios. Ça nous fait toujours plaisir. Et puis, j'allais dire un petit nouveau, mais quelqu'un que vous connaissez très bien, un comédien de longue date, Henri Chassé. Bonjour Henri.
Bonjour, bonjour.
Comédien, metteur en scène de cette pièce, mais vous avez déjà aussi signé d'autres mises en scène.
Au Rideau Vert, il y a 4-5 ans, le vrai monde.
Oui,
cinq ans,
oui, oui. Oui.
En pleine pandémie. Oui, c'était spécial.
Ouais. J'imagine. Ouais. Il y avait moins de monde qu'actuellement.
Oui, mais on fait une tournée, heureusement, après. Ça fait que,
ça, c'est une belle affaire. Ouais. Alors, merci d'être là. D'abord, Erika, depuis quand le Rideau Vert a mis sur pied ce programme d'accessibilité universelle et pourquoi un tel programme?
Alors, ça fait déjà presque 5 ans. En fait, c'est notre 4e saison, là, où on a mis en place le programme d'accessibilité. On voulait, nous, à l'origine, aller rejoindre des nouveaux publics, donc des publics qu'on dit éloignés de la culture, parce que l'offre culturelle, à l'époque, n'existait pas vraiment pour ces publics-là. Et l'envie, c'était de rendre nos spectacles accessibles, particulièrement au public aveugle, semi-voyant, malentendant ou sourd.
Henri Chassé, est-ce que vous êtes sensible à l'idée de rendre les spectacles accessibles à tous et à toutes?
Oui, mais moi, j'étais plus familier avec... D'ailleurs, l'an dernier, on l'avait fait là, avec les surtitres et des choses comme ça.
T'sais. Oui.
Là, c'est très particulier, là, mais bien sûr, je suis sensible à ça.
Et Erika, dites-nous en quelques phrases, justement, en quoi consiste ce programme? Parce que je sais qu'il est vaste, là, mais comment vous le résumez?
Alors, au Rideau Vert, nous, on a choisi d'embrasser cette accessibilité à plein corps, c'est-à-dire qu'on a décidé d'adapter nos 4 spectacles de la saison principale avec les 3 mesures d'accessibilité. Donc, on a une représentation en théâtre-description pour les personnes aveugles et semi-voyantes qui est précédée d'une visite tactile. Cette année, en plus, nouveauté, on a 2 représentations par spectacle en théâtre-description, une en matinée le mercredi à 14h et une en soirée à 19h30. On a aussi une représentation, comme le disait Henri, avec du surtitrage codé en français qui est destiné au départ aux personnes qui sont malentendantes pour les aider à comprendre le spectacle et qui finalement sert aussi aux personnes allophones, aux personnes qui ont de la difficulté avec le français. Donc vraiment, ça sert à plein de monde. Ça, c'est le jeudi soir à 19h30. Et on a aussi une représentation en langue des signes quand le spectacle le permet, parce qu'il y a des textes qui sont des fois trop compliqués aussi à interpréter en langue des signes, qui ont trop de personnages. Nous, on a choisi au Rideau Vert de faire toujours un interprète LSQ par personnage parlant sur scène, que ce soit avec le civet, donc dans un système de devant la scène, des interprètes comme vous et moi qui entendent, mais qui signent le spectacle, ou dans ce cas-ci, dont on va vous parler avec Henri, vraiment avec des acteurs et actrices sourdes et sourdes. Mais c'est vraiment cette idée de ratio, on veut que ce soit équitable pour que ce soit facile à suivre et que l'expérience soit vraiment similaire à l'expérience des entendants.
Donc, on parle d'une grande première. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y découvrir le 27 février? En quoi c'est inusité?
C'est inusité parce qu'au lieu d'être 4, ils vont être 8 à un moment donné.
Oui.
Non, mais en fait...
Sur la scène, tout le monde sur la scène?
C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on choisisse quand même... chez Tremblay, l'avantage qu'il y a, c'est que... Bon, il y a tous ces dialogues croisés qui sont assez difficiles à exécuter comme ça, là. Mais il y a des monologues qui sont souvent... C'est une de ses forces, d'ailleurs, là, qui sont... ou des moments qui sont plus de réflexion, qui sont souvent assez longs, là, tu sais.
Ces pièces en général, cette pièce-là.
Oui, dans ces pièces en général, des fois encore plus dans d'autres pièces, là, vraiment, où il est allé très loin là-dedans, là. Puis nous, on va privilégier ces moments-là pour vraiment que les deux, l'actrice, souvent dans ces cas-là, parce qu'ils sont 3 et un acteur, soit en fait, presque derrière l'actrice sourde, tu sais.
Donc, il va y avoir une interprète ou un artiste sourd.
Il va y avoir 2 interprètes pour un rôle à ces moments-là.
Mais est-ce qu'ils sont les 8 sur la scène ou les interprètes qu'on voit habituellement sont dans les coulisses?
Non, ils vont être... De toute façon, dans la pièce, les personnages sont toujours sur la scène.
Oui, c'est un huis clos.
C'est notre défi.
Oui.
Et quand les interprètes, on dit ça en sourd, vont sur le côté pour signer, puis dès qu'ils ont à intervenir, ils vont... nous, on s'en va tout organiser ça après-midi, là.
OK.
L'espèce de trafic pour qu'il y ait cette rencontre entre entre les deux interprètes, dans le fond.
C'est vraiment un ballet, en fait, c'est croisé, ouais. En fait, entre les deux cultures, les deux langues.
On n'a pas... C'est pas du brainstorming. Et puis, au fur et à mesure, à la fin, il y a un petit peu plus de... En tout cas, on va voir comment ça va se passer. Mais là, l'affaire, c'est que les interprètes sur scène doivent être... Ils doivent avoir des interprètes dans la salle. Pas les interprètes sur scène, mais les acteurs sur scène qui vont signer le spectacle doivent avoir un guide dans la salle.
Oui.
Fait que c'est toutes des choses techniques là, qu'il faut...
Oui, à peaufiner. Est-ce que ça veut dire que vous créez une deuxième mise en scène? Comment vous les accompagnez exactement?
On pourrait dire ça, mais... Non, c'est... Si on faisait tout le spectacle en parallèle complet, mais oui, mais en même temps, non, ce serait pas une deuxième mise en scène.
On respecte assez bien ta mise en scène de départ.
Là, il faut juste rajouter des entrées, des sorties de ces gens-là à certains moments.
OK. Puis, est-ce que ça vous met...
Des sorties aussi, ils vont vouloir tourner leur chaîne.
Mais est-ce que vous trouvez ça stimulant?
Ben oui, mais c'est toujours stimulant, le théâtre. C'est stimulant parce qu'il y a des gens qui viennent te voir live. Fait que déjà, c'était pas stimulé.
Oui.
Puis après, ben...
Mais là, c'est un défi supplémentaire. C'est une première pour vous.
C'est un défi pour eux, pas mal.
Ah oui.
Je pense.
Oui. Mais les personnes sourdes doivent apprendre le texte aussi, là.
Oui.
Oui, ça a été ça, c'est un gros travail, en fait, ce projet pilote. Et il est vraiment intéressant parce que ça nous permet, donc, premièrement, de rentrer en contact avec la communauté sourde, la communauté artistique, de voir comment est-ce qu'ils travaillent. Et oui, là, comme ce sont vraiment des acteurs et actrices sourdes qui sont dans le décor et qui interprètent les personnages, ils doivent apprendre tout le texte par cœur. Donc, en langue des signes, ils ont aussi raccourci certains morceaux pour que ça puisse fitter avec le tempo général du spectacle. Mais oui, ils ont vraiment fait un travail d'acteurs et d'actrices complet.
Un peu devant, mais ils vont nous voir quand même, là, ce qui fait qu'ils peuvent quand même voir qui parle et tout ça. Il y a une sorte d'ajustement.
Oui.
Il faudrait avoir une petite caméra dans les cerveaux dans la semaine prochaine.
Est-ce que vous avez passé des auditions pour les trouver, ces acteurs-là, actrices?
Non, c'est
acteurs.
Un processus qu'on a fait avec la compagnie ILSQ, qui est une nouvelle compagnie en interprétation de langue des signes québécoise, mais aussi en ASL. Eux, ils ont vraiment une mission de travailler pour valoriser, en fin de compte, la communauté sourde artistique, donc mettre de l'avant les artistes sourds et sourds. Et c'est avec vraiment le concours, en fait, de Marie Pennel de ILSQ et de Marie-Pierre Petit, artiste sourde assez connue quand même dans le milieu, que s'est fait le choix des comédiens.
D'accord. Henri, est-ce que vous les avez déjà rencontrés?
Oui, on a travaillé déjà deux jours avec eux.
Et ça se passe bien jusqu'à maintenant?
Oui, ça se passe bien.
Ouais.
Il y en a une d'ailleurs, une jeune qui a joué dans...
Jeanne May Claver. Ouais. Qui a joué dans Le Temps des framboises.
Ah oui, la
série télé, oui.
Série télé, oui.
Oui.
Et Erika, est-ce que vous pensez élargir ou bonifier l'offre des représentations pour les personnes qui sont en situation de handicap?
Alors, on va maintenir notre programme l'année prochaine encore. Donc, vous avez comme un petit preview sur notre prochaine saison. Les spectacles seront encore en langue des signes, seront encore avec de la théâtre-description et aussi du surtitrage. Ça va vraiment être autour de l'offre de la médiation culturelle qu'on va travailler l'année prochaine. Pour nous, c'est important déjà de maintenir ce programme qui coûte quand même très cher et qui donc doit être financé aussi année après année. D'ailleurs, on remercie l'Institut de la Fondation Nazareth et Louis Braille qui nous donne du financement pour la théâtre-description. Le Conseil des arts et d'aides du Québec aussi qui finance une partie et Hydro-Québec. Mais sinon, oui, il y a aussi la possibilité d'ouvrir plus avec des représentations sensoriellement adaptées. Ça, c'est une sphère qu'on n'a pas encore abordée au Rideau Vert. Donc, pour des spectateurs plutôt dans le trouble du spectre de l'autisme ou qui ont des troubles d'anxiété, par exemple, c'est des choses qui se font déjà au Théâtre Espace Go, à la Maison de Théâtre. Donc, c'est quelque chose qu'on envisage. Mais je travaille aussi énormément sur la communauté de pratique en accessibilité universelle, la communauté de pratique Audace. Et on a vraiment des beaux projets pour l'année prochaine, fait qu'il faut aussi que je divise mon temps parce que avec la communauté, ça permet de faire avancer l'ensemble du secteur culturel québécois. Donc des fois, il faut laisser un petit peu le rideau vert pour faire avancer tout le reste du secteur.
Est-ce que les personnes sont au rendez-vous? Est-ce que vous avez des listes d'attente?
Bien, tu t'en l'air que c'est pas mal plein.
Oui, alors en fait, la représentation en langue des signes le 27 février est presque complète. On a réussi à libérer quelques billets, donc je le dis quand même, il y a encore 35-40 billets qui sont libres. Donc vous pouvez,
déjà, c'est terminé.
Et voilà, ils sont tous partis.
Ça, c'est du théâtre, là.
Ouais, ouais, ouais.
Non, non, c'est, on a fait un gros travail pour libérer des places, pour justement accommoder les personnes qui ont vraiment besoin de ce spectacle et qui veulent en profiter. Mais sinon, oui, le public est très au rendez-vous. C'est exponentiel, en fait, année après année. On a de plus en plus de spectateurs. Au niveau des spectateurs aveugles et semi-voyants, ça augmente sans cesse. Ça, ça devient même compliqué pour ma visite tactile. Il faut que je limite parce que j'ai plus de place.
Ah oui, ben, oui. C'est, j'allais dire, c'est un beau problème.
C'est un beau problème.
Et ceux et celles qui sont intéressés, justement, citer à la pièce le 27 février, on appelle, on réserve?
Les deux. Alors, en fait, si vous allez sur la page web du site du Rideau Vert dans l'onglet Accessibilité et que vous allez justement sur le lien qui vous amène directement à la billetterie pour la soirée en LSQ, vous aurez en plus accès donc aux places à tarif réduit à $30. Ce sont des places qui sont en fin de compte cachées sur le site transactionnel pour être au bénéfice des personnes justement qui ont besoin de cette représentation. Et sinon, vous pouvez aussi appeler la billetterie. Mes collègues se feront un plaisir de vous vendre des billets.
Mais ça reste, cette expérience-là, en particulier, là, pas les autres là, ouais, que vous faites, ça reste le début d'une expérience. T'sais, pour nous autres, oui, on c'est pas qu'on marche à tâtons, là, on irait pas ça. Mais
il y a de l'exploration,
oui, c'est-à-dire qu'on,
du défrichage.
Oui, c'est vraiment le début d'un truc
quelque
là,
chose
qui est assez nouveau. Là.
Oui.
Mais je parle de ce qu'on va faire, parce que les autres trucs fonctionnent.
Oui, mais c'est ça qui est vraiment excitant. Puis je pense qu'on pouvait pas tomber sur une meilleure personne qu'Henri, qui est extrêmement ouvert et créatif. Et donc, ça a permis vraiment de faire un travail de co-création sur ce projet qui est effectivement, comme il le dit, un projet pilote. Mm-hmm. Donc, c'est une première avancée vers un spectacle qui, on l'espère, dans les prochaines années, pourra être entièrement interprété en LSQ, vraiment à l'intérieur même du spectacle. Donc là, on est vraiment dans un travail de co-création. Puis
de laboratoire.
C'est laboratoire, ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Puis vraiment, je remercie Henri parce que on ne pouvait pas tomber sur une meilleure personne.
Merci Henri.
De rien, ça me plaisait.
Alors, à toi pour toujours, ta Marie-Lou, c'est une pièce de Michel Tremblay, on le disait tantôt, qui a cette année 55 ans.
Oui.
Et on dit que c'est toujours actuel.
C'est-à-dire que c'est toujours actuel parce que c'est une grande œuvre. Là. Pour moi, c'est une tragédie. Tu sais, on pourrait dire des fois que les thèmes sont actuels, mais que la pièce n'ait pas traversé le temps. Mais c'est étonnant à quel point c'est efficace.
Et, mm-hmm. Et ça fonctionne. Les gens sont au rendez-vous.
Ça fonctionne très bien, oui. Ça fonctionne très bien.
Il faudrait peut-être rappeler qui joue les acteurs habituellement qu'on voit là, depuis le début.
Les deux filles, parce que c'est l'histoire sur deux temporalités. Ouais. Là. Les deux filles, c'est Catherine Paquin-Béchard et Rosanne Derry, qui font Manon et Carmen. Et les parents, disparus depuis, sont Madeleine Péloquin et Michel Charette.
On a droit à des performances. Oui, Marie-Lou. Oui.
Et Michel Charest fait Léopold.
Vous l'avez déjà joué, ça se peut-tu?
Non, j'ai jamais joué, mais j'ai joué pas mal de Tremblay. Oui. Puis j'ai... C'est ça.
Dans le vrai monde, entre autres.
Dans le vrai monde. J'ai joué dedans, puis je l'ai monté.
Puis Michel Charette a joué dans le vrai monde.
A joué dans le vrai monde.
Et oui. Et j'ai assisté à la première, Madeleine Péloquin m'a complètement renversée. Ils sont tous bons, là, mais elle, là, j'étais complètement fascinée par son jeu, extrêmement nuancé. Vous avez fait un beau travail de direction
d'acteur.
Plein de détente.
Non, mais c'est une pièce difficile, dure, mais avec une sorte de dimension tragique, là, quand je disais tantôt tragédie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'inéluctable dedans. Là, tu sais.
Mais
qui est très... Oui, on a travaillé fort.
Ça paraît. Une heure et vingt intense. Oui. On n'en sort pas indemne pour dire les choses ainsi. Et si ça vous intéresse, la pièce est présentée jusqu'au 28 février. On a ajouté une troisième supplémentaire. Ben, bravo, beau travail accompli.
Merci.
Et Henri Chassé, on va vous voir aussi au Rideau Vert en tant qu'acteur dans la prochaine production.
Hey, là, c'est relax. Non, c'est pas... Oui, dans la prochaine partie, sur Glenn Gould. Justement, en parlant de spectre de l'autisme, il y avait des petites particularités.
Hein?
Oui,
c'est
ça.
Donc, c'est pas vous qui jouez Glenn Gould.
Non,
c'est
je fais son père, parce que lui, il est mort à 50 ans.
Oui, il est mort assez jeune. Oui. Ouais. Alors, on va avoir droit à de belles partitions au piano dans cette pièce.
C'est-à-dire que c'est bien intéressant ce que Frédéric Bélanger est en train de faire. Il y a un pianiste aussi, mais...
Est-ce que vous aimez plus être sur la scène que diriger les acteurs ou le plaisir est égal ou il est différent,
c'est
j'imagine?
C'est très différent. Ouais. C'est vraiment... C'est moi qui ça? C'est
pas possible. Non.
C'est complètement différent, en fait.
C'est une belle musique.
C'est très bizarre parce que quand je suis acteur, je trouve que j'ai hâte d'avoir des breaks, puis j'attends. Des fois, je trouve ça long. Puis quand je suis metteur en scène, je vois pas le temps passer, puis il faut que je pense à donner des pauses parce qu'il y a quelque chose qui est... Puis t'as le contrôle aussi sur le... Un peu, quand même. Comme acteur, t'es un peu dépendant de la vision de quelqu'un d'autre. C'est très bien comme ça. Mm-hmm. Mais c'est très différent.
Nos postures.
Oui, c'est une autre posture. Ouais.
Alors, ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Henri Chassé, comédien, metteur en scène et bien d'autres choses. Érika Malot, coordonnatrice du développement artistique.
Et bien d'autres choses aussi.
C'est parce qu'en parlant dehors des ondes, je disais à Henri Chassé qu'il avait une très belle voix. J'imagine que vous en êtes rendu compte depuis longtemps et que je l'imagine bien enregistrer des livres audio.
Ouais. Bon, ben ça y est.
Nouvelle carrière.
Ça y est. Vous verrez plus nulle part. Je vais être tout...
C'est dans la poche. Oui. Merci à vous.
Merci.
Merci.